Avant d'interroger Bernard Lachaise et puis les personnes qui ont travaillé avec lui sur le projet et sur ce qu'on trouve dans ce livre, je voudrais simplement remettre quelques éléments en perspective. Vous rappeler que le 10 novembre prochain, ce sera le 10e anniversaire de la mort de Jacques Chaban-Delmas. Qu'en réfléchissant à faire une brève introduction, bien que ça ne me revienne pas du tout, mais je suis obligé de il y a des souvenirs personnels qui ont affleuré. Hein. Je retrouve ici des visages bien connus, en tout cas à l'époque, qui sont assez peu perdus de vue. C'est l'idée de Jacques Chaban-Delmas nous a quittés, parce que finalement, dans l'idée de nous a quittés, c'est finalement qu'il y a une forme d'absence et qu'elle dure. Et malgré les années, je ne dis pas qu'on ne s'en remet pas, mais on pense... quand on a eu la chance de croiser Jacques Chaban-Delmas, je crois que c'est assez difficile de l'oublier, et cette idée d'absence est réelle. Alors je voudrais juste démarrer par une anecdote personnelle, parce que je crois que Dominique Delage est là aussi. Je crois qu'on a réalisé le dernier interview de Jacques Chaban-Delmas, c'était en 1980, à la fin de l'année, ou début de l'année 1995. Il ne pouvait plus aller au premier étage de la mairie, donc son bureau avait été descendu au fond du salon à gauche, enfin du salon vert, je crois. Et il était son bureau à fer à cheval. Et donc, on rentre dans la mairie, il devait être 19-20 heures, il faisait nuit, un peu froid. Les portes grincent et on voit Chaban au fond. Et il nous voit entrer et il s'exclame et il dit « Ah, enfin des gens intelligents voilà. !» Alors on s'est dit tout d'un coup que pendant 45 ou 50 ans, finalement, il y avait bien une manière Chaban, et que si on était lucide, on ne le pouvait pas le croire, parce que naturellement on n'est pas aussi intelligent que lui, mais que si on manquait un peu de lucidité sur soi-même, ça pouvait séduire et permettre de passer une bonne soirée. Voilà. Donc c'est dit à un moment dans le livre, il y avait bien une manière Chaban, Bernard Lachaise.
Ah oui, tout à fait.
Excusez-moi de l'introduction.
Parle un peu de la manière Chaban. Voilà. Moi, j'ai peu connu Jacques Chaban-Delmas, mais j'aurais quasiment, dans les deux ou trois fois où j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui pour mes recherches historiques, des souvenirs à peu près identiques à celui que vous venez d'indiquer, notamment, je crois, la dernière fois où je l'ai vu, où la dernière parole qu'il m'a dite était « Soyez heureux ».
Bien, pour revenir à cet ouvrage, alors Marc Lajugy me disait, en 2006, quand on a créé l'association, on s'est dit, allez, il faut que ce livre soit prêt pour 2010. Alors, est-ce que c'est 4 ans de travail, ou bien d'où vient la genèse? C'est Marc Lajugy qui vous a sollicité, vous en aviez parlé ensemble, vous l'aviez déjà... Alors, vous travaillez déjà sur Chaban, de toute façon. Hein.
Voilà, ce n'est pas tout à fait 4 ans de travail, mais presque, effectivement. Ce livre, et je tiens vraiment à insister là-dessus, Éric Audinet l'a dit, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif d'abord d'historien, mais c'est un travail collectif qui a uni un photographe, donc François Ducasse, l'association bordelaise des amis de Jacques Chaban-Delmas et les universitaires. Alors l'idée de ce livre est née en 2006, effectivement, assez vite après le colloque que nous avions organisé à Bordeaux, qui, je crois, avait été une réussite et qui a fait l'objet d'une publication. Mais cette publication couvrait l'homme d'État, Jacques Chaban-Delmas, couvrait Jacques Chaban-Delmas en politique. Nous avions volontairement, dans le cadre de ce colloque et de ce livre, voulu mettre l'accent sur, et que ça se passe à Bordeaux, sur la personnalité, la carrière nationale et le rôle national de Jacques Chaban-Delmas. Mais avec le recul et très vite après, nous nous sommes rendus compte que peut-être il y avait une certaine frustration finalement des Bordelais. Les Bordelais avaient été très présents à ce colloque, les collaborateurs de Jacques Chaban-Delmas étaient nombreux, ils avaient été très assidus, très attentifs. Et l'idée, c'est que finalement, en mettant beaucoup l'accent sur l'homme d'État Chaban et le Parisien, en fait, on avait négligé dans cet ouvrage et dans ce colloque le Bordelais. Or, l'histoire de Jacques Chaban-Delmas et Bordeaux est beaucoup plus longue, finalement. Enfin, non pas que sa carrière politique nationale, mais elle est sans interruption, vous l'avez rappelé. Et par conséquent, nous avons, à ce moment-là, j'ai suggéré donc à l'association bordelaise des amis de Jacques Chaban-Delmas d'entreprendre un ouvrage, et un ouvrage qui soit différent, qui soit effectivement écriture plurielle, et où nous pourrions confronter, ou du moins juxtaposer, des travaux d'historiens, des témoignages de Bordelais qui avaient travaillé avec Jacques Chaban-Delmas, qui avaient vécu le Bordeaux des années Chaban, et qu'il s'agisse d'un bouquin qui soit illustré, qui soit agréable à regarder, qui puisse effectivement rappeler, au-delà des textes, ce qu'était le Bordeaux, justement, des années 1947-1995. Donc c'est de cet ensemble qu'est né le livre, par un travail qui, effectivement, a été assidu depuis 2007, en gros.
Alors, de Chaban, on connaît deux... Enfin, moi, je connais bien deux ouvrages. L'ouvrage de Chastenay.
Oui.
Et puis l'ouvrage de Savary.
Hein, oui.
Qui sont deux ouvrages... Je pense qu'il y en a d'autres, mais enfin, en tous les cas, je vous ai souvent... En quoi il diffère en quoi cet ouvrage diffère? Je tiens à préciser, il est extrêmement... enfin, il y a une magnifique photo, on voit bien... ça retrace très bien ce que peut être le lien qu'il pouvait y avoir entre la ville et Chaban. Mais on n'est pas dans la géographie non plus du tout. Hein, c'est des dimensions vraiment historiques, avec des phases assez critiques aussi par instant, sur sa gestion, sur la fin, en tous les cas. Voilà, est-ce que vous pouvez nous... Alors, sur le découpage aussi, qui est assez...
Voilà, la différence, je dirais. Les deux ouvrages auxquels vous avez fait référence sont des ouvrages qui sont importants. Le premier, donc, celui de Patrick et Philippe Chastenay que vous avez évoqué, était la première biographie d'envergure, donc consacrée à Jacques Chaban-Delmas. Mais c'est un ouvrage qui, maintenant, est ancien et qui date du début des années 1990, qui ne couvrait pas, effectivement, l'ensemble de la carrière et de la vie de Jacques Chaban-Delmas. Nous n'avons pas souhaité faire une biographie. Il ne s'agit pas là d'un ouvrage qui suit la chronologie. Nous ne prenons pas Jacques Chaban-Delmas à sa naissance jusqu'à son décès. C'est une autre vision que nous avons eue. L'ouvrage de Gilles Savary, j'y rends d'ailleurs hommage dans la partie que j'ai écrite, était une analyse plus limitée, qui était une analyse du système Chaban et du mode de fonctionnement de la mairie, des rouages du pouvoir à Bordeaux, au temps de Jacques Chaban-Delmas. Donc là, le point de vue était plus étroit. Ce que nous avons voulu faire dès le départ, c'est mêler de manière très étroite et très intime dans la construction de l'ouvrage l'homme Jacques Chaban-Delmas et la ville de Bordeaux. C'est-à-dire, c'est une histoire croisée, en quelque sorte, de l'homme et de la ville. Donc il ne s'agit pas d'une biographie où on pourrait lire tout ce que l'on veut savoir sur Jacques Chaban-Delmas. Il ne s'agit pas non plus d'une histoire, d'une nouvelle histoire de Bordeaux. C'est une histoire croisée, finalement, de Jacques Chaban-Delmas et de la ville de Bordeaux. Donc on peut lire ce lien, cette action, la façon dont tout cela s'est mis en place, et le résultat, évidemment, dans différents domaines. D'où l'approche qui est thématique. C'est-à-dire que nous avons fait appel à des collègues, donc historiens, géographes, qui sont spécialisés chacun dans leur domaine, donc plutôt d'histoire religieuse, plutôt d'histoire sociale, plutôt d'histoire culturelle, etc. Et chacun... soit parce qu'il avait déjà travaillé un petit peu sur l'époque Jacques Chaban-Delmas, ou parce que justement sa compétence scientifique était vraiment excellente sur un domaine en particulier, a accepté de jouer le jeu et de reprendre dans une synthèse, évidemment, hein, qui est nécessairement courte, ce qui concerne la culture, ce qui concerne, je pense au chapitre par exemple, de Mathieu Trouvé, qui est très neuf, la dimension internationale, l'ouverture de Bordeaux au temps de Jacques Chaban-Delmas, grâce à cette politique justement de relations internationales, de diplomatie bordelaise en quelque sorte.
Bon, nous ne disposons pas d'une longue soirée pour tout évoquer. Alors, on va peut-être reprendre le découpage et puis reprendre la première phrase, vous le citez, enfin, donc en quatrième de couverture. Quand il dit, vous citez Jacques Chaban-Delmas, qui dit « Les Bordelais m'acceptèrent parce que j'étais neuf. D'une certaine façon, ils me donnèrent naissance une seconde fois et Bordeaux devint ma ville. » Est-ce qu'on peut revenir sur ce moment précis? Comment Chaban arrive à Bordeaux?
Et je crois que ça, c'est...
Comment il renaît, finalement?
Je crois que c'est quelque chose qui, maintenant, nous paraît presque évident, enfin, qui peut nous paraître comme étant une opération qui évidemment, a réussi. mais c'était absolument pas le cas initialement. Il faut rappeler que Jacques Chaban-Delmas n'est pas bordelais, même s'il a des ancêtres qui ont vécu à Bordeaux, mais lorsqu'il arrive à Bordeaux, lorsqu'il choisit de faire une carrière politique en 1946, il n'est absolument pas dans le monde politique, ni même dans la ville de Bordeaux. Et c'est ce qu'on appelle très clairement un parachutage en politique. C'est une évidence. Et le premier miracle, en quelque sorte, c'est que ce parachutage donc, se passe au moment des élections législatives de 1946, donc élection réussie, première tentative, première élection. Jacques Chaban-Delmas a 31 ans. Et qu'un an plus tard, il emporte la mairie à 32 ans. Et donc, c'est en l'espace de 2 ans la conquête d'une position de député-maire qui n'est pas anodine pour une ville de la taille de Bordeaux. Alors, cette entrée à Bordeaux, effectivement, ce qui déclenche ensuite toute la suite, et s'explique par toute une série de facteurs que Jacques Chaban-Delmas a parfaitement d'ailleurs disséqué lui-même dans l'ardeur dans un premier temps. Il y est revenu par la suite dans les Mémoires pour demain, qui est notamment le fait que Bordeaux, nous sommes au lendemain de la guerre, Bordeaux était marqué par la collaboration qui avait dominé la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'exclut pas qu'il y ait eu des résistants, mais la collaboration, à l'image du maire Adrien Marquet, avait dominé cette ville. Et Jacques Chaban-Delmas arrive par conséquent dans une ville où, auréolé de ses titres de résistance, le général Chaban-Delmas, le compagnon de la Libération, celui qui est félicité donc, par Charles de Gaulle au moment de la Libération de Paris, c'est bien Chaban, cet homme-là est un peu l'homme providentiel. Et dans Bordeaux, qui veut en quelque sorte se refaire une virginité au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Jacques Chaban-Delmas, évidemment, est l'homme tout à fait opportun.
Et c'est ensuite, de Gaulle qui dit à Chaban aller à Bordeaux. Hein.
Oui, alors... De Gaulle, oui, c'est pas De Gaulle en lui-même, si vous voulez. Il aurait voulu la Charente-Maritime, il avait plus d'attrait initialement. Bon, on peut peut-être pas entrer trop dans les détails là. En tout cas, bon, il est à Bordeaux. Et à Bordeaux, le miracle, il le dit lui-même, c'est qu'il a réussi, grâce à sa personnalité, grâce à, justement à ce que vous évoquiez, le sang Chaban, l'enthousiasme, le dynamisme, la jeunesse, etc., à séduire. Un peu les inconciliables, a priori. C'est-à-dire qu'il peut séduire le milieu des Chartrons, il peut séduire le monde sportif de Bègle, il peut séduire les Capucins, et tout ça se fait en l'espace de très, très peu de temps. Il est fortement aidé, il est fortement accepté par ces différentes catégories de population, et c'est l'amalgame, finalement, de ces différents milieux qui fait que l'implantation réussit.
Quand on regarde après un peu dans le rétroviseur, on a l'impression que les 47 années à la mairie de Bordeaux ont été extrêmement monolithiques. Il est arrivé, il a été élu, puis il n'a plus jamais été inquiété. C'est pas si vrai que ça. En tout cas, dans les premières années, on peut vraiment dire que la conquête du pouvoir, elle met, pour se stabiliser, le Chaban, ça met presque 20 ans pour se stabiliser, 10 ans, 10, 12 ans.
Alors, à peu près 20 ans, disons, pour être complètement stabilisé et complètement installé. Mais ce qui est certain et qu'il faut rappeler, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier parfois, c'est que le mandat et la carrière et la vie bordelaise de Chaban auraient pu s'arrêter très tôt, c'est-à-dire après les municipales, déjà aux municipales de 1953, et très vite après, parce qu'en 1953, contre lui se présente une liste dirigée par Paul Estève, mais qui est une liste de marquettistes, c'est-à-dire d'admirateurs donc de l'ancien maire Adrien Marquet, et que Adrien Marquet étant lui-même à ce moment-là inéligible, ce qui était une chance pour Jacques Chaban-Delmas. Mais très vite après, dans les 2 années qui ont suivi, Adrien Marquet, qui désormais, par les lois d'amnistie, n'est plus touché par l'inéligibilité, Adrien Marquet fait un retour qui aurait pu être effectivement très difficile pour Jacques Chaban-Delmas. Et d'une certaine manière, la mort de Marquet, au moment où il aurait pu revenir sur la scène politique en 1956, a évidemment aidé la carrière de Chaban. En même temps, au-delà, disons, de Marquet, de l'épisode Marquet, de la menace qu'a représenté Adrien Marquet, il faut aussi voir que très vite, dès ce milieu des années 1950, commence à se tisser ce lien entre Jacques Chaban-Delmas, qui est un gaulliste, mais qui n'est pas un gaulliste encarté au sens très étroit, qui a une conception du rassemblement extrêmement large.
C'est un radical, clairement.
Voilà, radical, effectivement, qui a une ouverture et qui ne veut pas s'enfermer. Et très vite, au milieu des années 50, déjà se tissent les premières bonnes relations avec les socialistes bordelais, notamment Jean-Raymond Guyon. Et les socialistes bordelais le sauvent, en quelque sorte, au moment d'une crise municipale assez serrée, disons, d'une grosse difficulté et peut-être d'une fin de carrière municipale.
Est-ce que c'est à partir de là que naît ce qu'on a appelé le système Chaban ? Puisqu'après, la deuxième étape, c'est la communauté urbaine, hein, pour être schématique. Hein, c'est comment on partage avec le Bordeaux et l'agglomération et comment on établit une relation durable entre les socialistes de l'agglomération et la ville-centre. Sylvie Guillaume a l'air de dire que le système Chaban... c'est une construction, mais c'est surtout beaucoup de pragmatisme, plus qu'une théorie politique ou qu'une...
Voilà, je crois qu'il n'y a
qu'on
pas
a beaucoup
de...
théorisé dessus, mais peut-être c'est un peu exagéré.
Ce sont les politistes, sont les politistes qui ont théorisé le système. Je crois que chez Jacques Chaban-Delmas, en ce domaine comme dans d'autres, ce n'est pas un idéologue. Et il n'a jamais agi en idéologue. Donc il n'y a pas de volonté et de plan extrêmement précis pour gouverner la ville en accord avec les socialistes ou avec les indépendants ou avec les anciens marketistes, etc. C'est effectivement beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'habileté politique et une construction par étapes. Donc, il y a eu l'étape du milieu des années 50, il y a eu l'étape du ralliement des marketistes qui s'est faite progressivement dans les municipales de 1959 et finalement en 1965, et il y a eu effectivement l'épisode de la communauté urbaine. Et je crois que pour bien comprendre ce système qui a beaucoup intrigué, il faut se rappeler, parce que évidemment avec le décalage on a un peu de mal à le voir de la même manière, que les socialistes de la SFIO jusqu'au milieu des années 60 ne sont pas dans le même cadre politique que le PS depuis 1971, qu'il y a dans cette vieille SFIO née en 1905 une attitude qui est beaucoup plus une attitude réformiste et de pouvoir et de collaboration au pouvoir. Que Jacques Chaban-Delmas a connu, puisqu'il faut rappeler que sous la 4ème République commence sa carrière nationale, donc ministérielle, qu'il siège dans le gouvernement Mendès France, avec donc des hommes de gauche, qu'il siège dans le gouvernement Mollé, qu'il siège dans différents gouvernements de la 4ème République, et que par conséquent il y a une habitude à ce moment-là de fonctionnement. Et que pour lui, en quelque sorte, ce qui se passe au niveau bordelais n'est pas du tout en contradiction avec ce qui se passe au niveau national. Alors les choses changent évidemment. Plus tard, après le programme commun de la gauche, et avec l'arrivée, Sylvie Guillaume insiste beaucoup là-dessus, d'une nouvelle génération de socialistes qui n'avaient pas évidemment le même rapport avec Jacques Chaban-Delmas, qui n'avaient pas non plus le même rapport avec les gaullistes, parce que il n'y a pas du tout à ce moment-là le même vécu et les mêmes habitudes. Donc je crois que là, après, c'est une autre phase qui commence dans les années 1980, et aussi parce que la gauche est au pouvoir à partir des années 80. Donc, tandis que les socialistes de la première époque, les Robert Brett, à Mérignac, les René Cassagne à ce nom, les Deschamps, les Henri Deschamps à Talence, etc., appartenaient finalement à une génération assez proche de celle de Jacques Chaban-Delmas. Ils se côtoyaient au Parlement depuis l'après-guerre, et que par conséquent, les choses se passaient de façon assez simple, sans qu'il y ait de théorie, effectivement, du
Alors avant de revenir à une période cruciale, hein, qui est la période de... Bon, il est Premier ministre et puis il prépare sa candidature à l'élection présidentielle et où il définit, c'est là on peut revenir sur le terme d'idéologue, la nouvelle société, c'est bien une forme d'idéologie aussi, de réflexion sur la société, qu'on peut dire malgré tout que finalement ce système perdure aujourd'hui, il va continuer, même de gestion de l'agglomération, même si c'est un peu plus compliqué, si en tous les cas le maire de la ville-centre n'en est plus le président, mais est-ce qu'on peut dire que le système Chaban, même si on en a fait on en a émis quelques réserves, est encore à l'œuvre aujourd'hui dans l'agglomération ?
Je crois qu'il y a encore effectivement de larges continuités d'une certaine manière avec les réserves que j'ai indiquées il y a un instant, c'est-à-dire que ce n'est plus le même personnel politique, il y a eu une relève de génération, il y a un autre cadre national, il y a d'autres rapports, la décentralisation est passée par là, il y a donc toute une série d'éléments qui font que cela ne peut pas être comme ça fonctionnait dans les années 50 ou 60 encore. Mais je pense qu'il y a encore effectivement des continuités, des restes, parce que le système a globalement, au profit, je pense, quand même de la majorité des Bordelais et de la communauté urbaine, bien fonctionné pendant un certain nombre d'années.
Alors, on peut revenir à la nouvelle société. C'est un lieu commun que je vais évoquer, mais enfin, on peut le revisiter ou en reparler. On dit que finalement, Bordeaux a été le laboratoire de sa réflexion sur la nouvelle société. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? C'est vrai ? C'est exagéré ?
Alors, je pourrais peut-être répondre, mais je pense que j'aimerais, puisque cet ouvrage, j'insiste bien, est collectif, oui, donc je ne veux pas monopoliser la parole, mais dans la mesure où le collègue qui a écrit le chapitre sur...
Il était là,
donc j'espère qu'il n'est pas très loin.
Oui. Il est là, oui, il est là.
Voilà. Eh bien, Alexandre Fernandez va peut-être pouvoir, justement, sur cette question de la nouvelle société, du rapport Bordeaux-national, enfin, entre le local et le national, sur la nouvelle société.
Et puis, pour compléter, est-ce qu'on peut dire que Chaban a réellement défini une forme de gestion municipale tout à fait originale et tout à fait particulière à son action politique ?
Ce sont deux questions qui sont articulées, mais sont un peu différentes.
Donc,
Bordeaux comme laboratoire de la nouvelle société. Le papier que j'ai donné dans l'ouvrage qui est présenté aujourd'hui est centré sur les années 70. Les années où il est encore Premier ministre et surtout les années où il ne l'est plus, l'immédiat, la focale est vraiment les années 73, 14, 15, 16. Dans l'ouvrage auquel Bernard faisait allusion tout à l'heure lors du colloque, j'avais travaillé sur les années 60. Et j'avais commencé à m'interroger là-dessus, où j'avais vu effectivement quelques éléments qui pouvaient, de manière, je crois que le terme a été évoqué, qui est tout à l'heure pragmatique, laisser entendre que Bordeaux servait de laboratoire, avait pu servir de laboratoire à la nouvelle société. J'avais terminé l'article avec un point d'interrogation, déjà, il y a 4 ans. Les archives que j'ai pu trouver, que j'ai consultées, j'ai pas évidemment consulté toutes les archives possibles sur la période, c'est énorme ce qu'il y a. Alors j'ai centré sur quelques domaines. Ce qui semble se passer dans les années 70, c'est que, pour ce qui concerne l'action sociale, on essaie, Jacques Chaban-Delmas, Simone Noaille et puis d'autres, essaient délibérément de pousser plus avant ce qui avait été fait, ce qui avait été esquissé dans les années 60, c'est-à-dire effectivement débarrasser autant que faire se peut l'action sociale, la métamorphoser dans une sorte de progressisme social, né distinct, sinon radicalement différent, en tout cas sensiblement distinct de la philanthropie ou du paternalisme tel qu'il pouvait exister encore au milieu des années 60, et de manière assez étonnante. C'est très net. Il y a effectivement une manière d'administrer le social sensiblement différente dans les années 70 que dans les années 60. Ça se sent au niveau du vocabulaire, ça se sent au niveau de la façon d'envisager les problèmes. Est-ce qu'il y a un mode Chaban d'administrer le social, disons pour la partie de la gestion municipale qui s'attache au social, la réponse demanderait une enquête sur toutes les villes comparables au même moment. Ce qui, je ne crois, n'a pas été fait. Vous n'allez pas être satisfait de ma réponse de Normand, mais... plusieurs indices laissent apparaître une réponse positive. Mais,
par exemple,
la manière d'envisager, par exemple, la question des jeunes, que j'ai travaillé, qui est la question également, les questions liées, le rapport, les femmes, et notamment tout ce que la ce qui tient à la à la natalité, enfin au contrôle de la natalité. Et là, on a effectivement des modes, hein, de façon de poser le problème déjà et d'y apporter des réponses qui, à mon sens, sont modernes. Alors modernes, résolument contemporains, c'est-à-dire effectivement avec des débats qui font écho, qui sont présents au niveau national, mais dont je ne suis à peu près sûr que dans bon nombre de villes, disons de taille équivalente, et sans même parler des villes plus petites, hein, il faut attendre au moins pratiquement une demi-douzaine d'années plus tard, hein, c'est-à-dire lorsque l'impulsion, l'esprit du temps national c'est pas lié aux élections du début, c'est pas simplement lié aux élections du début de la décennie suivante, c'est effectivement quelque chose de plus global, s'impose, en fait, s'impose pour, disons, aux décideurs, pour parler vite, impose une autre façon de gérer le social. Pour une période, comme on pourrait dire, d'apogée de l'administration du social qui se situe, alors à Bordeaux effectivement, dans ces années 1970 au niveau national, on pourrait le décaler je pense, dans plusieurs villes, hein, plus exactement qu'au niveau national, on pourrait le décaler à mon sens d'une bonne demi-douzaine d'années. Donc, et dans une vie, une demi-douzaine d'années d'avance, c'est pas si mal que ça. Donc.
Alors, y a
pour ceux qui en ont bénéficié, en tout cas.
Merci, Alexandre. Après la partie un peu politique, vous traitez le deuxième chapitre sur les mutations de la ville. Et là, on peut dire que là aussi, il n'est pas en retard par rapport à beaucoup d'autres cités. On a toujours dit qu'après, peut-être sur la fin, Bordeaux a un peu pris de retard. Mais moi, je me souviens, quand la rocade était terminée ici, à Toulouse, on n'avait même pas imaginé qu'il puisse y en avoir un jour, même si aujourd'hui, il manque peut-être une voie. Mais en tous les cas, dans beaucoup de domaines, et c'est Mériadec, et c'est une volonté de faire de cette ville une capitale. Le lac, il y a des très... Très passage très marrant sur les conditions d'acquisition des terrains à Bordeaux-Lac. Il y a plein de passages très marrants d'ailleurs. Je ne sais pas si la politique se fait encore comme ça aujourd'hui. Enfin, en tout cas, elle gagnerait en poésie parfois. C'est quand même la rénovation. C'est plus que la rénovation. C'est pour une grande partie le Bordeaux d'aujourd'hui. C'est Chavant qui l'a construit. Et dans une dimension assez radicale, on peut dire.
Maurice Gosse, donc, qui a écrit le chapitre consacré justement aux transformations de la ville, je pense, sera le meilleur pour évoquer cela.
Bien. Oui, Chaban, comment il refait Bordeaux, voilà.
Bien.
Quelle est l'idée générale? C'est d'en faire une capitale à tout prix. C'est de.
Je crois qu'il
avait le don de grandir tout ce qu'il faisait.
Voilà, donc, c'est ça. Voilà. L'ambition, c'était quand même assez vite d'en faire une métropole régionale, tout d'abord.
Qu'elle n'était pas.
Qu'elle n'était pas vraiment. Et ensuite, dans un deuxième temps, d'en faire une ville internationale. Même si dans ce second temps les moyens manquent, je crois qu'il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure qui est très juste par Alexandre Fernandez, c'est qu'il y a aussi bien sûr le contexte global qui joue. À un moment donné, on va pouvoir faire des réalisations parce que il y a un type d'économie qui fonctionne et qui permet un certain nombre de réalisations. Plus tard, quand on va attribuer des échecs au maire, qui ne lui sont pas totalement imputables, dans la mesure où le contexte économique n'est pas un contexte porteur. Et donc, certaines des opérations qui sont lancées ou imaginées sur la fin du mandat sont aussi mises en échec, entre autres, par ce contexte économique. Et d'ailleurs, on voit bien quelles sont les conséquences, puisqu'elles le redécolleront par la suite à la faveur de conjoncture plus favorable. Alors, bien entendu, l'intervention de Jacques Chaban-Delmas s'est tout de suite marquée par le volontarisme et par également le souci de la modernité. C'est, on le voit à travers les premières réalisations. Je crois que la cité de la Benoge est vraiment très illustrative de ce choix. Et puis,
cette occasion, et on voit la photo bien connue, mais qu'on retrouve ici de c'est Khrouchtchev qui vient la visiter,
oui,
en 61.
Tout à fait. Oui.
Qui est quand même.
Oui, tout à fait, et qui est bon une sorte de cité jardin.
C'est extraordinaire. Hein,
Et puis ensuite, ce sont les opérations beaucoup plus emblématiques, fortement structurantes, comme bien entendu vous avez évoqué Mériadec. Mériadec qui est une opération intéressante parce qu'elle montre bien comment l'urbanisme nécessite du temps. Elle montre bien comment les opérations de rénovation urbaine se heurtent à différentes inerties. C'est une opération qui a été mal aimée, finalement débordelée, et qui trouve aujourd'hui sa revanche. Dans la mesure où elle fait partie de l'approche en termes de patrimoine mondial de l'humanité que l'UNESCO a développée. Par ailleurs, l'opération du lac, qui est une opération essentielle, qui aujourd'hui va complètement prendre son essor, notamment parce que est enfin réalisée quelque chose qui existait déjà dans les projets portés par Jacques Chaban-Delmas, le transport en commun en site propre. Et c'est ce transport en commun en site propre qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs veulent aller sur ce territoire, qui, bien entendu, est approché dans une logique qui est une logique du XXIe siècle, avec les préoccupations de développement durable que l'on a. Mais n'oublions pas aussi qu'il y avait ce souci d'intégration de la ville et de la nature dans le projet initial. Enfin, la rocade, qui a été un élément essentiel de structuration de l'agglomération, mais qui a aussi été un élément qui a parfois fait coupure entre la ville-centre les banlieues, et notamment qui a été la délimitation d'une redistribution des activités, d'une redistribution aussi de l'habitat pendant un certain nombre d'années, qui a contribué à vider un peu Bordeaux de sa population et à une perte de poids politique par rapport à ce que la ville pouvait représenter à un moment donné.
Alors le TCSP, le transport en commun site propre, au Chaban, ça va être le métro.
Oui.
Et ça ne sera jamais le métro. Mmh. Donc vous dites il sentait bien qu'il fallait le faire. C'est un échec lourd, le métro, dans le choix du métro qui finit par pas se faire finalement. Je me souviens que le tramway était raillé, hein, mais le tramway, c'était des petites villes.
C'est
lui-même
ça.
Avait, on se connaît tous la photo de 58, où il dit adieu au tramway devant le Grand Théâtre, et pour qui le tramway, c'était les villes avant la guerre. Hein, c'était pas moderne, le tramway.
Disons qu'il y a, probablement qu'il y avait des contextes, là encore, qui étaient favorables à un mode de transport plutôt qu'à un autre, selon les époques. Il est évident qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les villes qui se sont dotées il y a très longtemps d'un métro sont en train de passer vers des systèmes de tramway et, on pourra dire même plus largement, sont en train de passer à des systèmes multimodaux où on va articuler le train, le tramway, les anciens métros, selon le cas. Donc c'est vrai que ce dossier a été difficile. Peut-être que s'il avait été porté, lancé, matérialisé, on dira, dès les années 70. À l'époque, on parlait des systèmes VAL, par exemple, comme c'était le cas à Toulouse ou comme c'était le cas à Lille. Probablement que cette opération aurait pu se faire. Mais cette opération...
Pourquoi elle ne se fait pas, justement? On dit que Chaban a posé son pouvoir, règle les relations, l'agglomération, et finalement, elle n'accouche jamais. Les socialistes veulent pas.
Voilà, alors différents facteurs ont contribué à retarder cette opération. Et au moment où on veut véritablement l'affirmer, je crois que le contexte n'est plus tout porteur, et notamment économiquement. Et puis, bon, il y a les données aussi naturelles de Bordeaux qui...
Faible
densité, problème du sous-sol, qu'on a mesuré avec toute l'œuvre aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui est une œuvre souterraine, une œuvre invisible, mais qui est l'œuvre d'assainissement, qui est une œuvre remarquable, qui a été conduite sur la ville, très tôt, et ensuite sur la communauté urbaine. Ça a été l'énorme chantier de la communauté urbaine pendant des années, cette œuvre-là. Et ça, les Bordelais n'en sont peut-être pas suffisamment conscients. La différence entre le tramway et le réseau d'assainissement, c'est que le tramway, aujourd'hui, on le voit, on monte dedans. Le réseau d'assainissement, on n'a pas conscience de l'importance qu'il a pu jouer sur la structuration de l'agglomération.
C'est vrai. C'était les nouilles dans le caniveau, c'est ça, ce qu'on disait. Bon, merci. Alors, merci, Maurice Gauze. Merci. Question concernant l'économie, parce que toujours au rang des... Peut-être Hubert Bonin voudra s'exprimer. Mais là aussi, c'est... Chabans, c'est bien sûr l'urbanisme, c'est aussi l'économie. Chabans, il veut rééquilibrer l'économie bordelaise et girondine, sortir de simplement le vin et le porc, faire venir un peu d'industrie. C'est Ford, donc, puisqu'on parle beaucoup de Ford, mais c'est quand même Ford. C'est le complexe militaro-industriel aussi, qu'on a appelé à une époque, c'est-à-dire l'aviation, etc. Voilà. Mais vous avez un titre assez sibyllin. Vous dites Chabans-Delmas, spectateur ou acteur du déclin et du renouveau de l'économie girondine, comme si finalement il était autant acteur que spectateur et que on savait pas. Il a quand même une paternité de nombreuses choses, quand même.
Certes, mais quand on s'occupe de stratégie d'entreprise, le maire, aussi puissant soit-il, ne manie pas le processus de décision. On voit bien aujourd'hui même, face à Ford, les socialistes sont un peu paralysés. Donc ce sont des décisions qui sont prises outre-Atlantique. Et pour les chantiers navals, par exemple, les décisions ont été prises à Paris. C'est son bon ami Gaston Defferre qui a décidé de fermer, quand il était dans le même gouvernement, à terme, par le plan Defferre, les chantiers navals de Bordeaux, au moment où l'on voulait privilégier Dunkerque. Donc le maire n'a pas le pouvoir de décision ultime dans ce domaine-là. Bon, cela dit, Chabans a eu la chance, c'est être atroce que je vais dire, c'est que Bordeaux a été l'une des villes meurtries économiquement le plus tôt en France. Son déclin dans les années 50-60 est déjà fort parce qu'elle perd ses bases d'économie coloniale, je dirais, tout cet agroalimentaire, ce négoce, ces activités portuaires liées à l'outre-mer s'écroulent très vite. Les chantiers navals, comme je l'ai dit, ferment dès 68. Et par conséquent, dès qu'il a assis son pouvoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, Bernard, il doit réagir très vite, dès la deuxième moitié des années 50 et dès les années 60. Il peut agir, alors que dans d'autres communes, même Marseille, si le déclin des activités coloniales a été fort à Marseille, fausse à contrebalancer les choses. Hein. Et par conséquent, Chabans, très tôt, a pris conscience de ça. Deuxièmement, il était ministre, soit quatrième, à des postes transport, etc., où il pouvait avoir la lucidité de s'appuyer sur les enquêtes du plan, notamment du deuxième plan, puis du troisième plan.
Il est néanmoins dit qu'il ne souhaite pas favoriser plus que ça Bordeaux.
Oui, certes. Bon, c'est ce qu'on dit toujours. Troisième élément, il s'appuie, c'est ce qu'il faut le dire, sur une couche du patronat bordelais progressiste. Il y avait, comme partout dans toutes les villes, deux clans du patronat, un clan plutôt plomb-plomb, je dirais, à l'esprit d'entreprise un peu affaissé, et un clan plus moderniste, symbolisé à l'époque par le patron d'une toute petite boîte, Marie Brizard, mais qui était aussi président de la Chambre de commerce, qui était, faut pas que je me trompe, Yves Glotin. Et il s'appuie sur ce clan modernisateur et entrepreneurial, et ainsi il peut jouer sur ses forces parisiennes, locales, pour entreprendre d'abord une activité de débroussaillage. Ça a été bien connu, des étudiants l'ont étudié, Le livre y revient à plusieurs reprises, c'est la création du comité d'expansion qui court-circuite en partie la Chambre de commerce, qui est une sorte de conseil économique et social où l'on débroussaille les dossiers de façon un peu novatrice. Bon, à la fin, ça s'enlise dans l'industrie, dans les années 80, mais dans les années 50-60, c'est une sorte de commissariat général au plan à l'échelle de l'agglomération. Et c'est ce qui permet de prendre conscience rapidement du déclin et de discerner les voies possibles d'un renouveau dont il est à la fois spectateur du déclin, spectateur de l'action publique, hein, tout le complexe militaro-industriel, c'est pas lui, même s'il est ministre de la Défense quelques semaines, moi je suis dans le gouvernement Gaillard. En revanche, dans un certain nombre d'autres domaines, il est capable d'impulser soit la création que toi et Jean Dumas avaient étudié des zones industrielles en périphérie et d'essayer de stimuler l'action de la DATAR, l'action de la direction d'aménagement du territoire, de faire venir des crédits dont il était toi-même une sorte de diplomate.
Donc,
à Paris.
Ford, c'est pas lui alors. Alors.
Ford, ce n'est pas lui pour Ford en France. Ford, de toute façon, voulait établir des usines en France.
Oui, mais une fois que Ford a choisi la France...
Eh bien, ensuite, on sait, ça, c'est Bernard qui va peut-être nous l'expliquer, c'est la bagarre entre les Ardennes, la Lorraine et Bordeaux. Et là, son capital, tu peux l'expliquer peut-être, non ? Son capital de relations a pu jouer. Au dehors même du match politique du moment, c'est tout de même l'idée de convaincre que la région pouvait offrir une main-d'œuvre. Alors il y avait l'illusion qu'on a perdu depuis, que les ouvriers des chantiers navals se reconvertiraient en ouvriers de l'industrie automobile. Ça n'a jamais été possible à aucune époque, ce genre de reconversion. Mais déjà, créer 4000 emplois, ça, par les effets induits, ça correspond en gros, on dit en moyenne, 4 emplois pour un emploi à 15 000 emplois. Donc ça tout de même, pendant quelques années, 70, 80, 90, bon, stimuler une partie du renouveau, qui n'était pas sur Bordeaux même, mais qui avantageait toute l'agglomération et qui avait de l'impact sur les activités de transit, etc., etc. Mais je ne vais pas faire court ici.
Voilà.
Je fais court, mais
oui,
je ne vais
pas faire long. Voilà. Merci Hubert. Le troisième chapitre de l'ouvrage, c'est on venait d'évoquer le fait que Chaban cherchait à grandir en toutes circonstances sa ville, les gens avec lesquels il vivait à Bordeaux. C'est naturellement, ce sont les relations internationales, hein, tous ces grands jumelages qui sont lancés. On le verra également à travers la culture. Alors peut-être on peut demander à Mathieu Trouvé de venir. Voilà. Finalement, Chaban, il veut faire de Bordeaux non seulement une capitale régionale, mais une métropole qui a sa place dans le monde, en Europe et dans le monde. C'est ça l'idée.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire une ville ouverte à l'international. Bon, Bordeaux, ville ouverte, c'était déjà le cas avant
Chaban. Il la trouve un peu trop provinciale, hein,
voilà,
il faut dire.
Voilà, il y a cette dimension d'ouverture, de volonté d'ouvrir le monde, d'ouvrir Bordeaux vers le monde, vers l'Europe, mais pas seulement vers l'Europe, dans un cadre européen, dans un cadre aussi international. Et c'est vrai que l'envergure européenne et internationale de Chaban-Delmas a beaucoup aidé aussi à faire en sorte que Bordeaux ne soit pas replié sur elle-même. Donc il y a toute une politique de grandeur, on pourrait reprendre le terme qui est appliqué aussi souvent à la politique de Gaulle au niveau français, mais il y a toute une politique de grandeur voulue par Jacques Chaban-Delmas et une politique de prestige qu'il tente de mener et qui consiste notamment à développer tout un réseau de jumelages sont très, très, signés très très tôt, puisque le premier jumelage quand même de Bordeaux, c'est avec Bristol en 1947, vont suivre ensuite plusieurs jumelages, on en a 10 au total qui sont signés avec Jacques Chaban-Delmas, plus des accords de partenariat qui sont signés avec d'autres cités. Tout ça fait que Bordeaux a voulu s'ouvrir ainsi à l'époque de Chaban à l'Europe, à l'international. Et puis le fait que Chaban ait une telle envergure nationale, internationale, européenne et internationale, eh bien il y a beaucoup de chefs d'État aussi qui ont visiter Bordeaux.
Alors ça, c'est l'épisode de la visite de la reine. Hein.
Voilà, en particulier, il n'y a pas que la reine. Il y a eu avant le prince, il y avait son fils avant, le prince de Galles, qui était venu avant. Il y a eu de très nombreuses personnalités qui... Il faut voir une chose aussi, c'est que Jacques Chaban-Delmas était le troisième personnage de l'État aussi. Donc beaucoup de chefs d'État étrangers profitaient d'une visite, d'une tournée, c'est le cas de Khrouchtchev, on en parlait tout à l'heure, en France, pour se rendre à Bordeaux, pour goûter certes des plaisirs du vin, mais aussi pour rencontrer une valeur montante de la vie politique qu'était Jacques Chaban-Delmas, par exemple, dans les années 60. Et une figure d'ancien résistant, etc. Donc c'est la raison pour laquelle de très nombreux chefs d'État, en effet, se rendent à Bordeaux. Et puis, il y a des visites plus symboliques. Il y a des photos, notamment, dans le très, très belles, où on voit notamment Jacques Chaban-Delmas avec le Dalai Lama, qui est venu à Bordeaux en 93. Il y a évidemment la princesse, le prince de Galles et la reine d'Angleterre. Il y a de très nombreuses personnalités qui venaient à Bordeaux et qui étaient reçues toujours très chaleureusement par Chaban-Delmas. Donc, une ville ouverte à l'international. Et aussi, il faut voir aussi, non seulement pour des raisons de prestige et de grandeur, mais aussi, on aurait pu le souligner et faire le lien avec le chapitre précédent d'Hubert Bonin, d'économique, c'est une volonté aussi pour Bordeaux de trouver quelques débouchés aussi économiques. Hein. C'est ce qui explique, par exemple, les liens qui ont pu se tisser entre Bordeaux et Munich, ou entre Bordeaux et Los Angeles, Bordeaux et Fukuoka au Japon, etc., Bordeaux et Ashdod aussi. Tout ça fait que, voilà, on a une politique...
On crée une ligne régulière Bordeaux-New York.
Bordeaux-New York, oui. Il y a des... Et puis Bordeaux-Casablanca aussi.
Qui ne dure pas longtemps.
Non, mais Bordeaux-Casablanca avec le Maroc, puisqu'il y a le jumelage est signé en 88. Donc tout ça fait que, voilà, on a un aspect très, très important. Et dans les archives, il y a un décalage d'ailleurs assez important entre la faible production historique sur la question et l'énorme masse de documents qu'on peut trouver aux archives municipales de Bordeaux. C'est quelque chose de très impressionnant.
Est-ce qu'il se crée pas un hiatus entre les Bordelais et puis cette dimension internationale qui leur passe un petit peu à un moment donné au-dessus de la tête et qui est un peu critiquée,
ça
même
dépend.
Si dans les jumelages, beaucoup d'écoles et de... qui en profitent.
Ça dépend parce que voilà, il y a quand même le succès des jumelages repose pas seulement sur le maire et pas seulement sur le dynamisme de l'action municipale, mais repose aussi sur l'investissement. Des Bordelais, et c'est vrai que se créent des associations dans le cadre de ces jumelages, des associations scolaires, des liens, et évidemment le dynamisme va dépendre aussi de ces associations, de leur activisme.
Vous pouvez peut-être me répondre, parce que Françoise Taliano-Egaray n'est pas là, mais c'est indissociable de la volonté culturelle, de développement culturel dont il fait preuve à travers le CAPC, à travers l'opéra, à travers...
Oui, incontestablement. Le mai musical, par exemple, a un rayonnement international. Il s'agit de faire venir aussi des troupes de toute l'Europe. Et c'est vrai que ça participe aussi d'une volonté de rayonnement culturel. Tous les échanges scolaires aussi qui sont menés, les échanges aussi, beaucoup d'échanges entre orchestres, par exemple, allemands et orchestres bordelais, enfin, munichois et bordelais. Donc tout ça fait qu'en effet, on a une envie très nette, ce qui ressort, en tout cas, dans les documents que j'ai pu consulter, une envie très nette de développer aussi le rayonnement culturel, faire passer le rayonnement culturel de Bordeaux, et pas seulement et purement international.
On retrouve d'ailleurs, Françoise Taliano le souligne, les mots de volontarisme et de souci de la modernité qui ont été utilisés tout à l'heure par Maurice Gauze, correspondent aussi, enfin sont des mots majeurs dans la politique culturelle de Jacques Chaban-Delmas. Et Mathieu faisait allusion à la comparaison qu'on pouvait faire dans l'ambition de Chaban pour Bordeaux et la grandeur dont rêvait le général de Gaulle pour la France. Et en termes de culture, c'est effectivement, Françoise le rappelle, hein, citation par exemple du maire, « Ma ville doit s'imposer partout au plus haut niveau ». Et la comparaison entre les ambitions d'un André Malraux, ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, et ce que Jacques Chaban-Delmas pouvait vouloir réaliser donc, à l'échelle de Bordeaux. Il y a un vrai chabanisme culturel que d'ailleurs Françoise Taliano, parce qu'elle a pu étudier d'autres villes, et nous avons eu le souci quand c'était possible, ça ne l'est malheureusement pas toujours, Alexandre l'évoquait tout à l'heure, quand nous avons essayé de mettre en perspective finalement ce qu'avait réalisé Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux et ce qui pouvait être fait dans d'autres villes françaises. Et en termes de culture, Françoise Taliano-Egaray met en évidence un certain parallélisme entre ce qui est fait à Bordeaux par Jacques Chaban-Delmas et Micheline Chaban-Delmas et ce qui est fait à Marseille, entre Gaston Defferre et Edmond Charleroux. Et il y a un peu une même dimension, il y a une même volonté, un même souci, effectivement, culturel pour la ville.
On va peut-être profiter de la présence de Séverine Pacteau-Deluz et de Marc Agostino pour évoquer un chapitre qui est traité à travers culture, c'est la relation aux religions. C'est assez important dans la posture politique de Chaban. On peut dire, pour faire très simple et pour caricaturer, mais que il a évité le choc des civilisations, Chaban, quand même, hein, assez vite. Il y a eu un souci très précoce de...
Alors moi, j'utiliserai l'ordre alphabétique pour passer avant ma collègue et amie Séverine Pacteau-Deluz. Je pense que Chaban reposait pour une bonne part sur un électorat catholique. en grande partie. Jacques Lagroix, que vous n'avez pas cité tout à l'heure, dans les livres importants sur Chaban-Delmas, l'avait constaté. J'appellerai Chaban-Delmas le Mandel de l'après-guerre. Mandel était allé voir le cardinal Andrieux en 1919 pour le pousser à faire une liste commune avec l'abbé Berger. La vieille droite catholique et la nouvelle droite radicale de Chaban, Chaban, à mon avis, ayant évolué, mais seuls ses intimes pourraient le dire, dans ce domaine, avait compris cela. Et je crois que sa sympathie profonde, Séverine Pactodelus parlera du protestantisme, pour le catholicisme, son intimité avec le cardinal Richaud, le cardinal Richaud, c'était le cardinal Andrieux de Chaban-Delmas. Je ne sais pas s'il avait en tête cette référence de Georges Mandel, mais je crois qu'à Bordeaux, l'électorat catholique qui est nombreux, qui vote beaucoup, qui habite intramuros, a joué un rôle important. Et en dehors de cela, bien entendu, je pense, pour l'avoir entendu plusieurs fois de la bouche de Mgr Mazier, avec qui j'en avais beaucoup parlé, Mgr Mazier avait la plus grande estime, le plus grand respect pour Chaban-Delmas, avec lequel il avait des entretiens, je pense, d'une haute spiritualité. Voilà, c'est simplement ce que je peux dire en quelques mots.
Alors il y a ce souci chez lui de je vais pas dire de traiter avec les communautés, mais quand même si, il y a les protestants à Bordeaux, ça compte, les juifs aussi, il prend soin de les qu'ils soient représentés au conseil municipal. Voilà.
Ce qui nous a beaucoup frappé, Marc Agostino et moi, c'est l'extrême tolérance religieuse qui se manifeste pendant toute la durée du mandat. Jacques Chaban-Delmas avait un souci constant d'avoir des interlocuteurs à l'intérieur de chaque confession. Et alors c'est vrai que s'agissant du protestantisme, il est arrivé à Bordeaux avec la meilleure des clés qui soit, puisque c'est Lorrain Crouze, son compagnon de résistance, qui l'a introduit dans ce monde des chartrons et qui lui a donné d'autres noms, en particulier celui naturellement de Daniel Lotton, et c'est par l'intermédiaire, je dirais, de ces deux noms phares du monde des chartrons qu'il a pu ensuite acquérir une implantation extrêmement importante et toujours constante et très personnelle, car le monde protestant est, à la différence de ce grand monde catholique si diversifié, hiérarchisé, organisé, le monde protestant est beaucoup plus informel. Donc le contact avec le protestantisme va être un contact qui va passer par des réseaux de familiers, mais qui va se renouveler et se transmettre quasiment, je dirais, de génération en génération, et prendre une tournure quasi amicale. Ça nous a beaucoup frappés. On pourrait d'ailleurs dire des choses identiques, et nous avons eu le souci de le montrer également, en ce qui concerne le judaïsme. Mais le maire avait constamment cette volonté que les rapports qu'il pouvait avoir avec telle ou telle confession soient des rapports qui soient marqués par le signe du respect réciproque, par le signe de l'ouverture et par le signe de la compréhension. Et ce qui nous a frappés l'un comme l'autre en consultant la masse des documents disponibles aux archives municipales, c'est une relation alors de confiance, je dirais, voire de quasi-intimité, qui pouvait exister à tous les niveaux du monde catholique, du monde protestant, comme du monde israélite de Bordeaux, avec Chaban, à qui on écrivait comme on écrivait quasiment au père de famille. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui, pour l'historien, est quelque chose d'extrêmement précieux. Et donc, les réseaux religieux, je crois, je ne pense pas que Marc me détrompe, les réseaux religieux sont des réseaux qui, effectivement, ont pu, à tel ou tel moment, porter Chaban. Et puis, c'est vrai que, comme Bernard Lachaise l'a dit pour le monde politique, il y a eu un moment aussi où s'est effectué le changement de génération, un certain moment d'essoufflement, et on voit là qu'à partir de ce moment-là, le contact est un peu plus difficile et qu'il y a des essais de recadrage qui n'aboutissent pas.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de leçon à tirer de sa politique vis-à-vis des communautés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Alors bon, c'est une extrapolation un peu peut-être hasardeuse, mais...
C'est bien difficile. Aussi, Madame Pactodelus va-t-elle passer le micro? Par rapport à aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas faire parler, hélas, Chaban Delmas.
On a l'impression qu'il s'y prendrait mieux.
Je ne sais pas pourquoi, mais... Je pense qu'il s'y prendrait,
qu'il s'en prendrait bien.
Voilà. Et son respect, effectivement, des diverses communautés très profondes, à travers des lettres intimes, son ouverture d'esprit. Je pense que, moi, évidemment, je parle devant des grands témoins. C'est quelqu'un qui avait l'air parfois superficiel. Tout à l'heure, je m'avais demandé de présenter la photo avec Mauriac, j'en dirais deux mots. Qui avait l'air un petit peu, je dirais, plaisant. Et puis finalement, le photographe, quelquefois, le prend. C'était un homme très profond. Et je crois qu'il aurait très bien saisi, on ne peut pas le faire parler, bien entendu, la question de la pluralité actuelle. Avec tout de même un problème qui se serait posé à lui. Il y a une certaine génération, en particulier le président de la République, qui pense qu'il y a un vote catholique. Et là, je suis pas sûr. Et je ne sais pas si Chaban aurait pu, aurait continué à jouer sur ce vote-là. Vous voyez, ce sont des supputations. Et peut-être que les gens qui pensent qu'il y a un vote catholique ont raison. Hein, mais je n'en sais au fond rien.
Merci Bernard Lachaise, merci. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais on va parler du sport. Voilà, une dizaine de minutes. Alors on va peut-être parler du sport, des Girondins. Et puis c'est aussi là que ça commence un peu à déraper avec les Girondins. Pourtant, il avait fait beaucoup pour le sport.
On va faire appel à Luc Robben, mais je crois que ce que vous venez de dire concernant les Girondins et donc, grosso modo, la dernière décennie, justement, c'est ce que nous avons voulu éviter dans l'ouvrage. Nous avons voulu rappeler que Jacques Chaban-Delmas, ce n'est pas seulement, même si la mémoire est courte, ce n'est pas seulement les 10 dernières années de son mandat à Bordeaux. C'est un très long parcours. Et les Girondins, comme le tennis, comme d'autres, ça ne se limite pas effectivement à ce qui s'est passé à la fin des années 80, au début des années 1990.
Alors il y a la photo mais où il joue au rugby tout voilà, de suite après.
Je crois qu'elle est très intéressante de Luc.
Oui, alors en effet, j'ai tenu à mettre cette photo, enfin cette caricature en fait. Il y a une photo, oui, il y a aussi une caricature qui est assez extraordinaire, qui date de 48, dans laquelle on le voit en train de jouer au rugby avec son ballon de rugby siglé RPF. Donc on est déjà finalement dans la construction qui est très étonnante et très originale hein, de l'homme politique et en même temps l'homme de sport. Je crois que parmi les gens de sa génération, c'est un cas unique. Hein. Si on regarde un petit peu l'analyse qu'on peut faire au crible du sport, de la politique de Jacques Chaban-Delmas, je dirais qu'il y a au moins trois niveaux à regarder. Il y a le premier niveau qui est l'homme de sport, au fond, c'est-à-dire...
Le sportif, l'homme
de sport, et tout un finalement une philosophie de vie qui s'est développée à travers les valeurs qu'il estimait avoir acquises dans la pratique du sport, camaraderie, goût de l'effort, etc.
Chaban disait, le secret de la forme, c'est de se lever de table en ayant toujours faim. C'est voilà. Très difficile à faire.
On le retrouve en effet dans... Il revient très souvent sur son rythme de vie, sa qualité de vie, son rapport à l'effort physique, et je reprendrai l'expression de Gilles Savary qui est très bien trouvée, c'est l'athlète politique. Finalement, Jacques Chaban-Delmas, c'est peut-être ce qui le résume le mieux, c'est un athlète politique. Bon, à un deuxième niveau, finalement, on se rend compte que le sport, c'est un objet politique important pour Chaban-Delmas dans la construction d'une politique sportive. Et vous avez parlé des Girondins. Je dirais, ça, c'est le côté le sport de l'excellence, le professionnalisme, etc. C'est l'aspect le plus connu. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a réellement œuvré pour développer une politique du sport de masse, de l'ouverture du sport pour tous. C'est un aspect très important, qui se rattache probablement, j'ai essayé de le montrer, à son projet aussi de nouvelle société, c'est-à-dire l'ouverture de la culture et du sport au plus grand nombre. C'est quelque chose qui est fondamental, qui va se traduire par des projets concrets, alors y compris sur le projet du Grand Lac, la construction des clairières sportives, la construction du golf populaire, et ouais, il étonnait beaucoup, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, quand on pense qu'historiquement le golf c'est quand même la pratique de l'élite, et ça fait partie des la photo que je commenterai, c'est sur cet aspect-là, c'est-à-dire l'ouverture de pratiques de l'élite au plus grand nombre. Bon, et puis cet autre aspect qui est assez révolutionnaire aussi, les pratiques nautiques. Le Grand Lac, c'est la voile, etc. Donc, tout ce côté, je dirais, sport pour tous est très important. Et finalement, on a oublié, occulté à la faveur de cette affaire des Girondins, qu'il y avait le développement de cette politique-là. Alors certes, l'autre côté, et c'est une des forces de Chaban-Delmas, de tenir les deux bouts de la chaîne dans sa ville, le sport pour tous et l'élite, l'autre côté, c'est effectivement le haut niveau, on va dire. Mais là encore, les Girondins occultent beaucoup de choses. On oublie le tennis de table au CAM, au plus haut niveau, on oublie le waterpolo à Saint-Bruno, on oublie les filles de Chantecler en basket, on oublie les JSA en volley, etc. Jacques Chaban-Delmas avait compris, je pense, avant beaucoup de monde, peut-être pas avant tous, mais avant beaucoup de monde, la force du sport en termes de visibilité pour une ville. Hein, rendre Bordeaux visible, c'était... Il avait compris qu'on parlerait de Bordeaux à la télé, sur Stade 2, etc., dans le journal. Alors, voilà, ce sont ces aspects-là, je pense, et Bernard a raison de le souligner, qui étaient importants à rappeler, indépendamment du fait que, effectivement, l'affaire des Girondins va venir, je dirais, clore de manière un petit peu triste cette aventure.
Ceci dit, si les Girondins sont toujours là, ils le doivent
certainement à cette période-là. C'est ce que je dis dans l'ouvrage, et d'ailleurs, le journal municipal ne disait pas autre chose il y a un ou deux mois, en parlant des Girondins, comme finalement de l'image de marque de la ville, un des aspects les plus importants. Donc je dirais qu'à cette époque-là, Chaban a été là encore visionnaire. Juste pour recontextualiser cet aspect, faut se souvenir que ces années-là, c'est le moment où on passe du football qui payait pour passer à la télévision au football qu'on va payer. Et si on comprend pas cette dynamique, on peut pas comprendre le dérapage, notamment parce que c'est les années Tapie à Marseille, c'est les années Lagardère au Matra Racing, etc., etc. Alors ça n'explique pas tout, ça n'excuse pas tout, mais ça permet de remettre en perspective quand même cette problématique du football à Bordeaux.
Très bien, merci.